sur Radio Okapi. Une heure pour parler des réalités quinoises, de 16h à 17h, heure de Kinshasa. L'information de proximité en lingala et en français. Société, santé, environnement, économie, culture, sport et politique. Décryptage de l'actualité dans la capitale, vos communiqués et offres d'emploi, c'est dans Info Service. Au menu également, de la détente avec des humoristes de Kinshasa. Le décrochage de Kinshasa, c'est Radio Capi, près de chez vous.
Qu'est dit la loi sur à propos de la rétention du salaire d'un employé? Vous savez, dans certaines entreprises, les employeurs n'hésitent pas à retenir une partie ou l'entièreté du salaire d'un agent suite à une faute professionnelle ou pour une autre raison. En ce qui concerne les retenues des salaires, les limites prescrites dans la législation varient considérablement. Alors, qu'est dit la loi congolaise à ces sujets? Maître Yvan Louko, juriste et chercheur et écrivain en droit, et notre invité, encore une fois, bonjour.
Bonjour, Jody.
Alors, que dit la loi sur la rétention du salaire? D'abord, c'est de quoi s'agit-il, maître?
Bon, merci, Jody. Là, encore une fois, vous avez ciblé un thème qui... un thème très important parce que ça concerne principalement la vie des employés. C'est-à-dire les nerfs principaux pour lesquels nous travaillons. Pourquoi on travaille? Pour nous ennoblir, pour nous accomplir. C'est le travail qui ennoblit l'homme. L'homme se réalise et la femme se réalise au travers du travail. Alors, le travail a comme conséquence la rémunération. Ça veut dire que le travail n'est pas gratuit. Le travail est rémunéré. C'est pourquoi on les appelle les salariés. Ça veut dire que le travail, lorsque vous l'exercez et que vous êtes payé, vous êtes donc à mesure de réaliser vos projets de la vie. Alors, le salaire a réussi un caractère qu'on appelle... principalement les caractères alimentaires. Donc, on a considéré de tout le temps que le salaire est le cordon ombilical de la vie de tout employé. Ça veut dire, il est protégé. Si vous voyez dans le code, hein, vous rappelez lorsqu'on parlait de la sous-entreprise, il n'y avait que 4 articles. Quatre articles. Mais pour le salaire, il y a plus de 15 articles. Et en particulier pour la protection de ces salaires-là, il y a environ combien? Il y a environ 7 articles. Uniquement pour la protection.
Dans le code.
Nous sommes dans le code du travail. Et là, nous allons de l'article qui parle du salaire et ça commence par l'article, pour que je sois précis parce que je suis en train de lire en même temps. Le salaire est prévu par le titre 5, chapitre 1er de la détermination du salaire. Là, nous sommes à l'article 85. Vous allez jusqu'à l'article 110. 85 à 110 presque, vous êtes toujours dans le salaire. Et lorsque vous allez à l'article sur les modalités de paiement de ces salaires, vous êtes à l'article 107 et vous allez au chapitre 5, article 111. Voici ce que dit le chapitre 5, l'article 111. Dit des retenues et des réductions sur salaire. Principe. Première question que vous m'avez posée, que dit la loi? Nous commençons donc par que dit la loi avant d'expliquer. L'article 111 du Code du travail, énile toute stipulation, attribuant à l'employeur le droit d'infliger des amendes. Énile toute obligation ou toute stipulation attribuant à l'employeur le droit d'infliger des amendes au travailleur. Ça, c'est l'article 112. Émile de plein droit toute stipulation attribuant à l'employeur le droit d'infliger des réductions de rémunération à titre de dommages et intérêts. Toutefois, les retenues ci-après sont autorisées. 1. Les retenues fiscales, taxes professionnelles, les cotisations dues à l'INSS, les retenues à titre d'avance, les retenues à titre d'indemnité compensatoire, les retenues en vue de constituer un cautionnement. Les retenues faites en vertu de ces littéraires, tout ça. Vous avez un certain nombre de retenues qui sont autorisées, mais le principe, c'est que la loi interdit que le salaire puisse subir des retenues par l'employeur, ça veut dire le patron.
Mais il y a des retenues, par exemple, pour l'INSS.
Les retenues pour l'INSS, c'est pour l'INPP, par exemple, pour le fisc. Par exemple, il y a ce qu'on appelle l'IPR, l'impôt personnel sur le revenu. n'est-ce pas?
Oui.
Ou sur le salaire. Cet impôt-là, l'employeur a le droit ou le devoir de le retenir à la source. Donc, en payant le travailleur, il impute déjà. Et vous verrez, dans la plupart des travailleurs, n'est-ce pas, dans la plupart des salaires qu'on donne aux travailleurs, la rémunération, déjà les différentes taxes et impôts de l'État
et sont bien mentionnés.
Et c'est bien mentionné.
Dans le bulletin de paie.
Mais en dehors de ça, l'employeur n'a pas droit. Et la loi dit, en ce qui concerne la seule possibilité pour l'employeur, n'est-ce pas, de retenir, il lui donne le maximum au-delà duquel le travailleur ne peut pas voir son salaire être ambité. J'ai lu l'article 114. La rémunération du travailleur n'est cessible et saisissable qu'à concurrence d'un cinquième si la partie n'excéda pas 5 fois le salaire mensuel minimum interprofessionnel de sa catégorie et d'un tiers sur le surplus. Tout ça, je vais expliquer. Elle est cessible et insaisissable à concurrence des 2/5 lorsque la créance est fondée sur une obligation alimentaire légale. Lorsque, par exemple,
oui,
le travailleur doit payer l'obligation alimentaire, doit n'est-ce pas, donner une obligation ou bien être assujetti à une obligation alimentaire vis-à-vis de ses enfants, par exemple, qu'il aille avec une femme, hein, n'est-ce pas, ou vis-à-vis de ses enfants sous tutelle, de ses oncles, tantes et consorts, n'est-ce pas,
des personnes à charge qui sont,
des personnes à charge, non, il y a d'autres personnes qui sont à charge mais qui ne restent pas dans la maison, mais pour lesquelles vous avez une créance alimentaire. Ces personnes-là peuvent être au village. Vous avez une créance alimentaire, ces personnes-là ont droit.
Par exemple, vous avez eu un enfant avec une femme,
avec une
vous
femme,
avez divorcé.
Vous avez divorcé.
Alors, vous continuez à assurer la pension.
Voilà, mais cette femme a obtenu un jugement pour lequel vous devez payer, vous devez, n'est-ce pas, subvenir à l'obligation alimentaire, ça veut dire à la nourrir, elle et son enfant.
Et son enfant.
Par rapport, n'est-ce pas, à l'histoire qui est passée entre vous. Cette obligation-là oblige l'employé de couper sur votre salaire, donc de faire des retenues par rapport à cette obligation-là qui est consacrée par un jugement.
Et l'employeur va directement verser, donner à
et l'employeur va directement verser. C'est ça la conséquence de cette retenue qui est autorisée.
Oui.
La saisie et la cession autorisée. C'est pourquoi vous voyez, en matière de salaire, vous n'apprendrez jamais que nos soit salaire n'anga. Donc quelqu'un a cédé son salaire et que l'employeur te reçoit. Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas.
C'est interdit, non?
Oui.
Le salaire n'est pas cessible. La saisie et la cession autorisée pour toute créance est celle autorisée, et celle autorisée pour cause d'obligation alimentaire légale peuvent s'opérer cumulativement. Les deux peuvent s'opérer. Le calcul des quotités, si c'est cessible et saisissable, c'est fait après déduction des retenues fiscales et sociales et de l'évaluation forfaitaire du logement, tel que défini à l'article 139. Du présentif.
Mais est-ce que l'employeur peut retenir les salaires de l'agent?
Vous voyez d'abord, tel que nous avons lu là,
oui,
notre public, ne peut rien comprendre, c'est trop technique.
Oui, allez-y, pouvez-vous simplifier,
alors,
expliquer en des termes beaucoup plus simples.
En des termes, là nous avons donc lu les articles, à commencer par 110, et nous sommes limités donc uniquement à 114. Alors, ça veut dire, le principe c'est que les cessions, céder son salaire, interdit. Saisir le salaire, interdit. Mais la loi donne l'exception sur un certain nombre de choses pour lesquelles on peut autoriser et la cession et
la saisie.
Alors, la conséquence d'abord de ces interdictions-là, c'est qu'on considère, ou bien la ratio legis, on considère que le salaire est, comme je l'ai dit, le nerf de l'existence de la personne. Et dans le salaire, et si vous voulez que j'utilise le terme propre, la rémunération, il n'y a pas que le travailleur. Il y a sa femme, il y a ses enfants. Dans les allocations familiales, il y a donc ceux qui ne travaillent pas, mais qui sont tes ayants droit. Ils sont aussi dans les salaires. Ce qui fait que lorsqu'on touche les salaires, il n'y a pas que toi qu'on a touché. Il y a aussi ces gens-là. Ce qui fait donc que le salaire est protégé. Parce que il constitue la source de votre existence. Si vous voyez maintenant, tel que la loi l'a prévu, vous ne pouvez toucher le salaire que par rapport à la partie qui reste après la déduction des impôts, des cotisations sociales, de l'INSS, de l'INPP et consorts. Donc, vous ne pouvez pas calculer que non, tu as $300 et les déductions qui seront faites doivent porter sur le 300. Il faut d'abord qu'on enlève toutes les charges de l'État pour que la partie qui reste, n'est-ce pas, on voie lesquels.
On appelle les salaires nets.
Voilà, les salaires nets.
Il y a le brut et le net.
Mais dans le net, il y a ce qu'on appelle la quotité disponible, c'est-à-dire la marge en dessous de laquelle vous ne pouvez pas céder. Ça veut dire que si le salaire, par exemple, est de 300, si on calcule selon le pourcentage de la loi, au-delà de 200 dollars, on ne peut pas toucher. Si le salaire est de 300. Si le salaire est de 200, au-delà de 150 ou 130 dollars, on ne peut pas toucher, quel que soit le motif.
Et donc, mais si, par exemple, vous êtes absenté du travail pendant un long moment, ou soit vous venez en retard, l'employeur dit, bon, à cause de toutes ces fautes accumulées, on va faire une rétention sur les salaires.
Bon, ça, ce n'est pas une rétention sur le salaire. Vous ne vous êtes pas présenté au service, c'est-à-dire vous n'avez pas presté. Le code du travail prévoit que lorsque vous n'avez pas presté, non plus, il n'y a pas de salaire. Ça, ce n'est pas une rétention. Ça veut dire tout simplement, c'est une voie de conséquence. On n'a pas retenu sur ton salaire, on a calculé selon que tu as travaillé. Surtout dans le secteur privé, eh bien ça c'est par voie de... Ce n'est pas une retenue sur le salaire, c'est pas une créance. Ça veut dire pas de prestations, pas non plus de rémunération.
Pas de rémunération.
Donc là, ce n'est pas une rétention sur votre salaire.
Voilà.
Tu t'es absenté, tu n'as pas travaillé, eh bien si on déduit ces absences-là, on n'a pas retenu sur votre salaire, on a juste tiré une conséquence liée au code du travail, parce que parmi les obligations de l'employé, du travailleur, c'est de prester. Alors, ce que nous voulons insister ici, c'est que, où que vous soyez, l'employeur n'a pas droit, parce que vous avez une créance, Ozana Nyongo na Musala, de retenir tout ton salaire. Et les quelques autorisations permises ici, c'est à concurrence d'un certain montant, par exemple.
Nous parlons ici de 300. Tu es parti en mission de service et tu n'as pas justifié, tu n'as pas apporté les justificatifs par rapport à l'utilisation de l'argent. Alors, l'employeur dit, dans ce cas, on retient ton salaire.
Non, c'est pas possible. On ne peut pas retenir le salaire. On peut faire, dans ces conditions-là, par exemple, donc ça devient une créance. Vous avez reçu des frais d'émission que vous n'avez pas justifié. Ça veut dire, ça devient une créance.
Est-ce que cela donne plein droit à l'employeur de faire une rétention?
Ça, c'est parmi, lorsque cette créance-là est autorisée, donc cette créance-là est autorisée à l'article 112 parmi les retenues qu'on peut effectuer. Mais selon quel pourcentage? C'est-à-dire, si par exemple l'agent a un salaire, disons, de 500, l'équivalent en francs congolais de 500 dollars. Et que les frais d'émission qu'il a dépensé sont de l'ordre de par ça de 2000 dollars. Ça fait dire son salaire fois 4 mois. Alors s'il arrivait qu'il est établi qu'il n'a pas justifié, qu'il a dilapidé, qu'il a mal utilisé cet argent et qu'il doit rembourser à la caisse, on respecte la loi en faisant quoi? En prenant son salaire de 500, en enlevant la quote-part de l'INSS, on le paye entre 5 et 15% de ton salaire, on met de côté. L'INPP, on met de côté, n'est-ce pas? L'impôt sur le revenu professionnel, on met de côté. Le salaire de 500 va se retrouver par presque entre 450 à 400.
On paye aussi à l'INPP?
Oui, à l'INPP, il y a aussi une cotisation à l'INPP. Pour que l'INPP fonctionne, il y a aussi le frais de l'INPP. L'Institut National pour la préparation professionnelle. Donc la loi voulait que les travailleurs...
Quel pourcentage?
C'est presque de même ordre, mais c'est moins que celle de la Sécurité sociale de l'INSS. Donc, bref, il y a aussi, n'est-ce pas, un droit qu'on paye là-bas, parce que tout simplement, vous devez être formé continuellement pendant toute votre existence. Et c'est ça la mission de l'INPP. Ça, je ferme la parenthèse. Alors, après avoir enlevé ces montants-là, vous restez avec environ 400. Et c'est sur 400-là, on ne peut pas aller au-delà. Alors, on parle de un cinquième par mois. Ça veut dire les 2000 dollars-là qu'on a pris comme exemple. On va y aller, si mes calculs sont bons sur votre 500, on va commencer à lever plus ou moins 20 à 15 dollars. Ou bien, si vous voulez, 15 à 20 dollars. Par mois.
Jusqu'à ce que...
Éventuellement, on puisse atteindre les 2000. Parce que si on va au-delà, c'est une retenue arbitraire. Et le travailleur a le droit d'aller saisir la justice pour que l'employeur soit condamné. Nous savons les conséquences parce que notre jurisprudence nationale a déjà établi que les employeurs en ont profité chaque fois qu'un travailleur va se plaindre en justice, uniquement pour qu'on lui ajoute le salaire ou prime ou heure supplémentaire qui soit payé immédiatement parce que vous avez seulement déposé plainte, n'est-ce pas, au parquet ou à l'inspecteur du travail et on vous licencie. Et la jurisprudence nationale a établi que le fait de se plaindre pour un travailleur n'est pas un motif justifia la rupture. Donc chaque fois qu'il y aura rupture parce que le travailleur est parti se plaindre, eh bien, ou bien il a manifesté, il a grévé. Si vous le sanctionnez, parce que tout ça ce sont des plaintes, c'est un licenciement abusif. Ou la sanction est elle-même abusive ou arbitraire tout simplement. Et vous devez des dommages et intérêts énormes en ce qui concerne les travailleurs qui a subi cette sanction-là. Donc en conclusion, le salaire ne peut pas être touché même si la personne a une créance. Et même si cette créance-là est certifiée par un jugement, ça veut dire que la personne a obtenu un jugement qu'il doit payer, les retenues en question ne seront qu'à proportion dépasser les 1/5 de la quantité disponible. Mais on a la quantité qui reste, n'est-ce pas, sur les salaires, parce que après avoir imputé, n'est-ce pas, les taxes fiscales, professionnelles, telles que l'article 112 le prévoit du code du travail.
Que dit la loi congolaise sur à propos de la rétention salariale, la rétention du salaire d'un employé? Appelez-nous pour participer au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net.
À partir du lundi 4 avril 2016, la grille de programme de Radio Capi connaîtra quelques ajustements. Un décrochage sur la réalité de Kinshasa sera proposé tous les jours de 16h à 17h sur l'antenne locale. Deux nouveaux journaux seront désormais proposés respectivement à 15h et 22h en semaine et à 15h et 20h le week-end. Des nouvelles chroniques sur la santé, l'humour, la jeunesse, l'environnement, la justice et les droits. Radio Capi, encore plus près de vous, pour mieux vous servir.
Que dit la loi congolaise sur la rétention salariale? Benjamin nous appelle de Bounia. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Oui, je voulais juste d'abord saluer notre invité, ainsi que c'est un thème qui m'a beaucoup intéressé aujourd'hui, puisque j'ai déjà été victime de rétention de salaire quelque part, puisque j'étais en Kenya, quoique j'ai abandonné maintenant, mais j'ai quand même fait la procédure avant. Donc je voulais demander à l'invité, est-ce que dans la loi congolaise, est-ce que la loi permet-elle à une confession religieuse de retenir la salaire de quelqu'un, puisque nous assistons souvent dans les cas de l'enseignement, par exemple. Ça arrive que la communauté retire le salaire des enseignants sur base des dîmes. On justifie cela que non, on doit payer des dîmes à la communauté. Est-ce que c'est prévu par la loi de payer des dîmes d'une manière involontaire? C'est tout ce que je voulais demander.
Voilà, merci. Maître Ruffin, alors un enseignant... Est-ce que qui travaille pour une école confessionnelle, conventionnée, je sais pas moi, est-ce que cette confession a le droit de retenir un montant, soi-disant, à la dîme du Seigneur?
Bon, la question est très gênante pour moi. Bon, je dois y répondre tout de même. Je dois y répondre par conviction. Ok, merci beaucoup Benjamin de Bounia pour votre attention et vous pour votre question. Alors, je vais rappeler ici l'article, n'est-ce pas, pour mieux te répondre, je rappelle, Benjamin, l'article 114, dernier alinéa.
Du Code du Travail.
Du Code du Travail. L'article 114, dernier alinéa, dit que dans la quantité disponible, ou bien dans la quantité saisible ou saisissable, cela ne se fait qu'après déduction de retenue fiscale et sociale et de l'évaluation forfaitaire du logement. Je devais insister sur ça. Donc, la loi considère que le logement, lui, est intouchable. Parce que dans les calculs de la rémunération, il y a plusieurs rubriques. Il y a plusieurs rubriques. Pour que vous ayez le montant de la rémunération, il y a plusieurs rubriques. Dans cette rubrique-là, ou dans ces rubriques-là au pluriel, il y a également le logement. Alors, lorsque vous voyez par exemple à Kinshasa, le logement peut à lui seul prendre les 2/3 de votre salaire.
Le logement, lui seul. Quand vous prenez les transports,
le logement lui seul peut prendre les 2/3 de votre salaire. Lorsque vous voyez le niveau de vie, même en Europe d'ailleurs, ce qui fait que les salaires en Europe ne profitent pas aux Africains qui sont en Europe, c'est d'abord les charges sont telles que la plupart ou l'ensemble des salaires est englouti
par ces charges-là.
Par ces charges-là, et principalement
l'électricité, le gaz.
L'addiction à l'énergie, l'addiction à l'énergie, c'est-à-dire la régie des eaux chez nous et la SNEL. Et les gaz en Europe. C'est ça l'énergie dans l'ensemble. Il y a donc la SNEL dedans, il y a l'eau et il y a le gaz.
Mais ça vous prend presque...
Ça vous prend plus de deux tiers.
De votre salaire.
Alors chez nous aussi, le logement est tellement important. Le logement, le législateur l'a mis en évidence que dans le calcul, vous devez mettre également le logement de côté qui ne doit pas être touché. Non seulement les allocations familiales et l'allocation, c'est-à-dire la quotité des salaires qui revient à tous les membres de ta famille, mais également le logement. Et lorsque vous calculez maintenant le logement, par exemple, si votre salaire est de 500, votre logement, vous payez, le loyer, vous payez par mois 350. Donc ça veut dire, vous irez même en dessous de ces 20, il y a de 15 à 20 dollars que j'ai parlé si le salaire était de 500. Mmh. Pour dire donc en conclusion, et revenant à Benjamin, le principe c'est que
retenir la dîme, prélever la dîme sur les salaires
sur
des
les
enseignants.
Salaires, c'est interdit.
Sans leur approbation.
Parce que non, pas, c'est une libéralité. Même la Bible dit que tout ce qu'on donne à Dieu, hein, on le donne, n'est-ce pas, du fond de son cœur. On n'est pas contraint. C'est ta foi qui t'oblige.
Oui.
Mais si
l'enseignant n'est pas de cette foi.
Je donne maintenant la condition. Si. Donc, mettez cependant. Par rapport à tout ce que nous venons de dire là, nous ajoutons cependant. S'il arrivait que vous avez été recruté dans cette congrégation-là parce qu'on vous considère comme étant membre de la congrégation. Donc,
de la communauté.
Vous partagez la même foi que la congrégation. La dîme, vous devez la payer. C'est vrai? Les modalités
de prélèvement.
c'est là où les sont paniers, s'il faut dire comme ça, comme tout le monde. C'est-à-dire, les modalités maintenant. Bon, l'église considère que si on vous laisse,
vous n'allez jamais payer.
Ça sera très compliqué. Parce que je vois que dans beaucoup de communautés, il y a des carnets, des chèques de paiement. C'est-à-dire, on sait suivre que non, le mois de janvier, vous avez payé votre dîme du salaire. Le mois de février, il y a un carnet. Mais si,
donc c'est
tel que vous posez la question là,
monsieur Benjamin,
tel que vous posez la question là, le dîme, selon la foi, a un caractère, le dîme a un caractère obligatoire, selon la foi. Mais tout ce que Dieu demande, la Bible dit, c'est d'une manière libérale.
Mais si on s'en tient à notre loi, est-ce que cette congrégation a ce droit-là
de prélever officiellement la dîme?
Non.
J'ai dit non.
Alors, Benjamin peut porter plainte.
Peut porter plainte, mais avec la conséquence que, comme c'est une congrégation, il lui a été engagé comme étant membre de la congrégation. Donc, un membre de la congrégation doit mettre en pratique la parole telle que congrégation le croit. C'est ça le cependant ici. Donc, monsieur Benjamin, nous ne faisons pas de confusion. La loi l'interdit, parce que la loi est laïque. Mais vous êtes dans une convention, dans une école confessionnée.
Oui.
Protestante, catholique, kimbanguiste, islamique, c'est selon
orthodoxe,
oui. Anglican. Vous êtes donc dans une école conventionnée. C'est comme ça que la loi les appelle. Donc ce sont des écoles qui ont une convention avec leur foi. Et cette foi-là, l'école l'applique. Si c'est la foi catholique, l'école l'applique. Elle considère que non, tous les employés là-bas sont catholiques. Et donc doivent faire les rites de l'église catholique. Convention protestante, la même chose. Et conventionnée kimbanguiste, conventionnée islamique, la même chose. Vous devez vous conformer, parce que là vous êtes dans une spécificité. Vous devez accepter de payer la dîme. Mais si vous décidez d'appliquer la loi, parce que la loi ne s'applique pas partout de la même façon. Le principe c'est que c'est interdit. La dîme, prélever la dîme, c'est interdit parce qu'il n'y a aucun texte qui le prévoit. Sauf la Bible. Or la Bible n'est pas un texte qu'on doit imposer à tout le monde. La Bible, la loi, État laïque, la Bible s'applique à ceux qui y croient.
D'accord. On a deux autres auditeurs en ligne. Gentil Oumanou de Kananga et Dieu merci de Manono. Gentil, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à notre invité du jour.
Quelle est votre question?
Monsieur le journaliste de m'avoir accordé la parole. Si j'ai bien suivi notre invité, lors de son introduction, il a parlé que les salaires, on les mérite quand quelqu'un travaille. Dans quel sens? Si quelqu'un s'absente au niveau des services, il n'a pas droit au salaire. Mais je voulais demander à notre invité, le salaire d'un agent de l'État vient au niveau du gouvernement central, par exemple celle qui travaille au niveau de la province. Leur argent de salaire vient au niveau du gouvernement central. Alors, au niveau de la province, si un agent payeur trouve que, ou bien un chef, trouve que ce métier n'a pas travaillé pendant tout un mois. Je dois couper son salaire. Alors, le salaire là, ça doit retourner au niveau de la gouvernement provincial ou bien ça ira où? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, je voulais demander la différence qui existe entre les salaires et le prime de risque et le prime d'encouragement. C'est gentil, le monde des canards, une nouvelle vision.
Dieu merci, Manono de Manono, bonjour.
Bonjour.
Nous parlons de la rétention du salaire. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, moi, j'ai deux ou trois questions à poser à notre invité. Bon, il y a d'autres pratiques qui se passent dans beaucoup d'entreprises. Je ne sais pas si les entreprises congolaises respectent le code du travail de notre pays. Le problème, c'est quoi? Vous trouvez quelque part dans une même entreprise, là, on fait signer un même agent deux fois. Vous trouvez parfois, c'est un agent qui doit toucher 150 000. Mais on lui donne une fiche, il doit signer 200 et 2000. Et cette rétention, cette retenue, n'est même pas légale, n'est même pas signifiée à l'agent. Et quand il va oser seulement de revendiquer, c'est la révocation. Et une révocation qui ne suit même pas la procédure normale. Ça, c'est un. De deux, vous avez évoqué le problème de la prime. Mais souvent, les églises disent qu'ils ont fait des conventions avec l'État. Même l'État reconnaît tout ce que les églises sont en train de prélever comme digne. Mais on se pose des questions. J'ai une question très sensible à poser à l'invité qui est sur votre plateau. C'est juste de savoir.
Oui.
Moi, je ne suis pas de l'église, par exemple, X. Je vais travailler dans cette école. J'entre dans une autre église. Mais je vais demander, parce que la dîme, c'est la foi. J'ai dit à ce gestionnaire que la dîme de mon salaire, je dois donner ça au pasteur de mon église. Mais ça doit être le motif de la révocation. Mais je viens de suivre votre invité qui dit non. Vraiment, la dîme n'a pas les textes qui reconnaît la dîme. Mais les églises disent que ça part de la convention entre les églises et l'État. Ça, c'est deuxième question. En troisième position, je dis,
oui.
Je voudrais savoir les salaires. La banque TBC a payé les enseignants. Mais on a prélevé hyper, donc on ne sait pas. Bon, comment on est en train de prélever l'impôt sur le revenu professionnel? Et pourtant, c'est un impôt personnalisé. Donc, on doit suivre la situation familiale de l'agent. Et ensuite, l'État, en tant que technicien, il arrive des fois, on parle de l'abattement à la base, compte tenu des coûts de vie de la population. Le prix salaire de l'enseignant, là, on n'arrive pas à tenir compte de tous ces paramètres. Vous ne voyez pas que le paiement des salaires, on paie ça tel qu'on veut dans notre pays. Il n'y a même pas surtout les entreprises qui viennent de l'extérieur ne respectent pas les codes du travail de notre pays. Ça, c'est vraiment un thème dont je félicite. Merci, c'est Dieu merci à Patrick Manou.
Bien. Alors, revenons à la question de Gentil Oumanou. Il dit que le salaire, par exemple, d'un agent de l'État à Kananga vient du gouvernement provincial, et si...
Il demande de signer deux fois, il a parlé de signatures, ça c'est gentil de l'homme. Manono.
De Manono, voilà.
Ah, voilà.
Non, c'est Dieu merci de Manono. Gentil lui a parlé de... Voilà, vous n'avez pas travaillé pendant un mois, et si on ne vous paye pas cet argent, on va le retourner au gouvernement central, où va aller cet argent-là?
Ça ne lui intéresse pas.
Parce ça que
lui n'a pas travaillé.
Lui n'a pas presté.
La conséquence, donc, c'est-à-dire, c'est Lumanu, n'est-ce pas?
Oui.
Nous devons être clairs. Ce n'est pas une retenue. J'ai dit Lumanu, lorsque vous n'avez pas presté et qu'on vous a retranché sur votre salaire, c'est pas une retenue. Parce que vous n'avez pas presté et, en conséquence, vous n'avez pas. Alors, ici, la situation est différente. L'humain nous pose une situation différente.
Oui.
Il est là, un fonctionnaire de l'État qui, lui, n'est pas soumis au code du travail. C'est la particularité. C'est-à-dire, les fonctionnaires de l'État sont soumis, n'est-ce pas, par les statuts des carrières des services publics de l'État, qui, n'est-ce pas, organisent un autre régime. Ce qu'on appelle le régime des carrières. Ici, c'est le régime des contrats. Ça, c'est le code du travail. Le régime des contrats à durée indéterminée, CDD ou CDI à durée indéterminée. Donc ça, les régimes sont tout à fait différents. Avec la conséquence que dans les contrats, dans le régime de contrat du code du travail, il y a ce qu'on appelle les salaires à la tâche, les salaires à la minute, ou à l'heure, ou au jour. Ça veut dire ceci, ceux qui sont sous statut, ça veut dire, comme les fonctionnaires, et touchent par mois. Qu'il ait travaillé ou pas, c'est par mois. C'est à l'intérieur qu'on fait les sanctions, qu'on sanctionne l'attitude pour le travailleur de n'avoir pas, de ne s'être pas présenté, n'avoir pas presté.
Vous voyez, on va lui coller une demande d'explication.
Demande d'explication et consort, voilà. Oui, et la demande d'explication peut aboutir à une sanction de privation de salaire. Vous voyez, ça c'est dans le statut. Ceux qui sont sous carrière. Mais ceux qui sont sous contrat, c'est-à-dire qui sont gérés par les corps de travail, pour eux, vous, au salité, au cousoua, les foutis.
Les foutis paysatés. Alors, Dieu merci de Manon, on nous dit ceci. On lui paye 150 000 francs congolais. Mais quand on lui fait signer la fiche de paye,
double,
là-bas,
double
on fiche. Écrit 102. Hein, 102 000 francs congolais. Alors, il n'arrive pas à comprendre. Et si vous refusez, vous voulez pas signer, on vous crée des misères.
Alors, évidemment, ils sont nombreuses, ces entreprises, qu'il faut signer des fois les agents. C'est-à-dire, ils ont la contre-lettre. Ou bien ils ont la comptabilité officielle des salaires
et la comptabilité officieuse.
Et ça, c'est criminel.
Ça, c'est la magouille.
Elles sont nombreuses, les entreprises qui font ça. Et vous savez pourquoi elles font ça continuellement? Parce que... Pourquoi ils font ça continuellement? Pour échapper, principalement d'abord, au fisc. Et nous perdons énormément d'argent, que ce soit l'INSS, que ce soit la DGI, la DGC à l'époque, DGI aujourd'hui, la DGRAD. Tous ces services congolais du fisc perdent, donc le trésor public perd beaucoup d'argent, parce que tout simplement ces gens-là ont préféré se comporter comme dans la jungle, et ça à la faveur du fait que tous nos inspecteurs du travail recrutés la dernière fois en 80-81 tous sont presque décédés, vieillissant. Et vous vous retrouvez, par exemple, il y a quelques jours seulement, une province comme celle du Nord Kivu, du Sud Kivu, n'avait qu'un ou deux inspecteurs. Toute une province. Alors que une ville doit avoir au minimum 15 inspecteurs de travail. Je me rappelle que le gouvernement avait lancé le recrutement lorsque Bahati Lukwebo était au ministère des Travail, l'avait lancé le recrutement des inspecteurs. Ça s'est arrêté jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons plus d'inspecteurs du travail au pays. Et si on en a, c'est un centième par rapport au nombre de ceux qui doivent contrôler tous les travaux. C'est pourquoi vous voyez la jungle totale et au CED. Les employeurs font ce qu'ils veulent.
Délister.
Et ça, c'est une infraction qui peut entraîner la fermeture de cette entreprise.
Et on vous oblige à faire.
On vous oblige, non, c'est-à-dire, mais nos syndicats, vous voyez même ces entreprises, même refuser les syndicats. Pas question,
vous ne fonctionnez pas ici.
Pas question. Oui. Et ça se passe comme ça aussi, au vu de tout.
On va accueillir Dida de Kinshasa. Bonjour Dida. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Fondamental.
Oui, Dida. On vous écoute.
Je suis allé. Bonjour.
Bonjour.
Oui, je pose la question à notre invité là.
Oui.
Allô?
Oui, allez-y.
Voilà. Je voudrais demander à notre invité qu'il puisse me définir d'abord ce mot-là, salaire. Première question. Deuxième, celle-ci. Il existe combien de types de salaires? Troisième question. À qui est-ce qu'on doit donner les salaires? Puisque un enseignant comme moi, qualifié, tout fait, j'ai fait la pédagogie à l'ISP du Brit. Je suis arrivé ici, je suis dans l'enseignement. Comment est-ce qu'un homme peut traiter pendant 2-3 ans sans avoir un salaire au moment où nous sommes dans un pays démocrate? Un enseignant comme moi, j'ai un numéro matricule que je traite avec ça. Mais jusqu'alors, on ne sait pas. NP, ce mot-là, NP, ça existe qu'ici au Congo ou bien dans d'autres pays voisins, ce mot-là aussi existe. Avant qu'il vienne de parler d'abord du salaire ici. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pensé pour les enseignants, puisque les enseignants sont les unités fondamentales de tous les intellectuels. On parle de l'unité fondamentale parce que sans enseignants, sans enseignement, aucune personne ne peut dire que je suis médecin, je suis ministre, président, qui que ce soit. Donc tout le monde passe d'abord par les enseignements. Après avoir été enseigné, tu deviens ce que tu es aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'ils négligent les enseignants? Mais ils prennent d'autres choses en valeur. Vous m'écoutez?
Oui, merci, monsieur Dida. Gaël nous appelle de Lubumbashi. Bonjour.
Je dis bonjour aussi à mon invité.
Quelle est votre question, Gaël?
Donc, je dois d'abord emboîter le pas à l'auditeur qui vient à peine de passer. Parce que dans l'enseignement, il y a toujours le terme qu'on a toujours utilisé, que l'enseignement est une vocation. C'est-à-dire, avant de vous payer, lorsque vous refermez votre rémunération, vous voyez le préfet qui vous appelle, il vous dit que non, vous voyez, l'enseignement, c'est une vocation, vous devez tout d'abord aimer votre job avant d'aimer d'abord l'argent, parce que si vous aimez l'argent plus, vous allez vous retirer du métier. Donc, aimez d'abord le job, et puis l'argent viendra après. Vous allez constater que quand on vous dit ça, vous allez faire même 3 mois. Après 3 mois, on vous paye si c'est 1 mois. Après 1 mois encore, on vous paye l'autre mois. Donc, vous travaillez avec un retard de 2 mois, donc, pour vous payer. Et c'est ce paiement est fait, on vous paye d'une manière de monnaie de singe. C'est-à-dire, on vous paye par monnaie de singe. Aujourd'hui, on vous paye si c'est 20 000 francs. Demain, on vous paye si c'est 30 000 francs. Le lendemain, on vous paye si c'est c'était plutôt 10 000 francs ou 15 000 francs. Alors, qu'est-ce que dit la loi par rapport à ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème aussi, c'est toujours le problème que beaucoup d'enseignants vivent. Alors, j'aimerais aussi poser maintenant la question par rapport aux personnes qui se sont entendues, disant que lorsque vous m'engagez, je commencerai à vous payer et je commencerai à vous donner 5% de mon salaire. Alors, le salaire, le 5% que la personne a proposé à la personne qui l'a pris pour travailler, le 5% doit être retenu directement par cette personne, ou bien le 5% que la personne, après avoir perçu son salaire, que la personne doit maintenant te donner le 5% là. Parce que je me souviens aussi, il y a des problèmes, j'avais suivi toujours sur Okapi, le monsieur qui ne pouvait, le député qui ne voulait pas contribuer maintenant à son parti. Alors, c'était dû à ça ou bien c'est par rapport à quoi?
D'accord, merci. D'accord, merci Gaël, Maître Guffin. Vous avez suivi, de définir les salaires, les types de salaires. Ça, c'est pas notre thème du jour. Nous parlons plutôt de la rétention du salaire. Alors Gaël nous parle d'un préfet, le préfet qui vous appelle et vous dit bon, l'enseignement est une vocation. Vous accusez déjà 3 mois de retard et puis il vous paye au 3e mois et pas l'entièreté du salaire. Il vous donne 20 000 francs. Et puis ça vient à compte-gouttes de cette façon-là. Qu'est-ce que la loi dit par rapport à tout cela?
Merci Jody, merci à tous les auditeurs qui ont posé leurs questions. Mais celui qui a demandé qu'on puisse définir les salaires, même si ce n'est pas l'objet, n'est-ce pas, de l'émission d'aujourd'hui, faisons-lui plaisir. J'ai lu l'article 7 du Code du travail. Voici, parce que c'est important pour vous. C'est important pour vous et pour notre population. Voici ce que la loi congolaise appelle salaire ou rémunération. Rémunération, c'est-à-dire la contrepartie du travail que vous faites. Article 7, alinéa A, donc au point H. Rémunération. La somme représentative de l'ensemble des gains, susceptible d'être évaluée en espèces, est fixée en accord ou par les dispositions légales et réglementaires qui sont dites en vertu des contrats de travail par un employeur à un travailleur. C'est ça la rémunération. Elle comprend notamment. Donc, les sommes susceptibles d'être évaluées en espèces et fixées en accord ou par des dispositions légales. C'est déjà prévu. Que comprend la rémunération? Voici. 1. Les salaires. Les salaires est une partie de la rémunération. Les salaires ou traitement. 2. Les commissions. Dans la rémunération, il y a ce qu'on appelle les commissions. 3.
Les primes.
L'indemnité de vie chère. Indemnité de vie chère. Parce que vie est changée, il faut pas bâtir ça.
Oui.
Et il y a des provinces où la vie est plus chère que dans d'autres. Donc, l'indemnité de vie chère doit être inclus dans le salaire. 3, les primes. Donc, là, c'est 4. Les primes, comme tu l'as cité anticipativement. Les primes font partie de la rémunération. 4 et 5, la participation aux bénéfices.
Alors, passons rapidement alors à la question de Gaël, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Le préfet, on vous paye pas votre salaire, 3 mois de retard, et puis on vous paye 20 000 francs, ça vient à compte-gouttes. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
En ce qui concerne les enseignants, les enseignants sont, au Congo, les enseignants sont tous payés, sauf ce qu'on appelle les NI, les nouvelles unités. Et il y a Kinshasa, il y a un syndicat très fort des enseignants ici qui pousse le gouvernement à payer même les nouvelles unités. C'est vrai, on peut discuter, on peut échanger sur la hauteur de la rémunération. Il semble être faible, mais le gouvernement est en train de fournir des efforts pour que ça change. Mais l'important pour tous nos auditeurs, c'est que le travail doit être payé. Et le salaire, lui, lorsque le travail est payé, le salaire, on ne peut pas procédé à retenir qui vaut au-delà, non seulement, comme on l'avait dit, d'un cinquième de la quantité saisissable ou saisissable. Mais, parce que tout simplement.
Est-il permis de réduire les salaires de quelqu'un de plus de la moitié? Parce que l'entreprise a des difficultés. On vous dit non, vos salaires seront rabattus.
Il faut négocier ça avec l'inspecteur du travail autorisant. Il faut négocier ça avec les syndicats. Vous ne pouvez pas. Toutes ces pratiques-là sont illégales. Telles que nous le voyons, les entreprises le faire. Il y a même ceux qui donnent les 25% du salaire. Pas seulement 50. 50, vous avez encore une chance. Il y a des entreprises qui vont jusqu'à donner seulement 25%. Toutes ces pratiques-là sont illégales, interdites par la loi. À défaut de les avoir, ces pratiques-là, les avoir négociées avec les syndicats de travailleurs, pour savoir si vous pouvez faire ça pendant des 3 mois, à quel mois vous allez récupérer, n'est-ce pas, avec éventuellement des primes et des dommages et intérêts que vous allez donner aux travailleurs, parce que vous les avez coupé la vie, s'il faut utiliser ce terme-là, voilà. Par rapport au fait que vous avez...
Et comment porter plainte?
Eh bien, c'est toujours, en matière de travail, c'est devant l'inspecteur du travail, dont nous avons dit qu'ils sont moins nombreux, mais là où il n'y a pas d'inspecteur du travail, porter plainte à la police et au parquet, et cette police-là va transmettre les dossiers devant les juges du travail, qui, plus ou moins, sont en train d'être installés. Les juges du travail sont en train d'être installés dans la plupart de nos provinces. Et il y a déjà commencé par Kinshasa, Lubumbashi et Matadi.
Maître Rifan Louko, juriste et chercheur et écrivain en droit, merci.
Merci à l'attention des auditeurs.